Bonjour à toutes, bonjour à tous. Fabien du cinéma Le Bourguet, cinéma art et essai de Fort-Calquier. En cette semaine du 21 au 27 février qui marque le début des vacances d'hiver, 5 films sont à l'affiche. Il y en a, je crois, pour tout le monde, comme on dit, pour tous les âges notamment. Entre fiction et documentaire, divers voyages s'offrent à vous, depuis le Champsaur voisin avec Vivre avec les loups, jusqu'à la frontière Bélarusse-Pologne dans Green Border, dont on va vous parler tout de suite, et même des voyages spatio-temporels à travers diverses époques dans la baie de Bonello. On vous parle de tout cela tout de suite. Green Border, le film d'Agnieszka Holland, était présenté au Festival de Venise en septembre dernier. Il a marqué, à juste titre, et il a remporté le prix spécial du jury, et c'est justice pour ce film ô combien humaniste qui porte justement un regard sur une situation qui, elle, est totalement déshumanisée. La situation des migrants, des personnes exilées, des familles, femmes, enfants, hommes, que l'on transbahute de part et d'autre de la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, c'est-à-dire entre l'extérieur de l'Europe et l'Europe, puisque l'idée de cette famille qui fuit la guerre en Syrie, qui fuit la mort et qui arrive aux abords de l'Europe pour gagner la Suède et qui tente d'entrer dans la communauté européenne, dans une forêt où se situe la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, se retrouve l'enjeu des douaniers, des flics, des militaires qui les fait passer de part et d'autre de la frontière et des barbelés, les traitant de manière absolument ignoble. Et le film, dans sa première partie, est rude. Il est rude, mais il est nécessaire. Il est formidablement interprété, il faut le dire, par des acteurs, des actrices qu'on ne connaissait pas, je pense, jusqu'alors, en tout cas en France. Et il est poignant et éprouvant, mais encore une fois nécessaire. Et je trouve que le film gagne encore en force dans sa deuxième partie, vous le verrez, où là, on se place du côté des humanitaires, de membres d'une association autour d'une maison qui elle-même est située en forêt. Et vous verrez qu'à travers ce... Le film s'enrichit de divers points de vue, en fait, entre les familles exilées, les flics à la frontière, les militaires, et puis ces humanitaires. Le film s'enrichit beaucoup. Il est très fort, je pense, et très pertinent sur la situation qui se passe là-bas, cette situation terrible qui est celle-là même, on le sait, d'une multitude de frontières, notamment en Europe. C'est une situation terrible et dramatique que Agnieszka Holland voulait absolument dénoncer avec ce film très fort. Elle y parvient si bien que le gouvernement conservateur, lorsque le film a été présenté à Venise, puis en Pologne, n'a pas manqué de réagir, et notamment l'odieux ministre de la Justice, qui l'a comparé à une nazie, et tout le gouvernement conservateur l'a fustigé. Elle a été la proie d'associations de membres de l'extrême droite polonaise, elle a subi des menaces de mort, les pires injures. Voilà, c'est plutôt bon signe quand ces personnes-là réagissent en ce sens, c'est que le film touche juste. Petit rappel peut-être à Agnieszka Holland, qui, je trouve, avec les années, au fil des films, parvient à une certaine grandeur, vraiment, dans les combats qui sont les siens, dans le cinéma qui est le sien, et l'engagement qu'elle affirme de film en film. Agnieszka Holland a 75 ans, on l'a peut-être découvert plus particulièrement en France en 88 avec Le Complot, et puis davantage encore avec Europa en 1990. Sa filmographie est inégale, mais il faut dire bien que dans les dernières années, elle a, et notamment dans des situations historiques bien précises, avec L'ombre de Staline en 2019, avec Le procès de l'herboriste, ce sont des films qu'on vous a montrés à Fort-Calquier en 2020, et donc Green Border aujourd'hui, elle atteint vraiment une dignité dans son cinéma très 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 grande, et je trouve que ces films-là font d'elle une personne ô combien admirable, qu'il est nécessaire de soutenir dans ses combats et dans le cinéma qu'elle sient aujourd'hui. Ce film donc s'appelle Green Border. Il est programmé cette semaine pour 5 séances, à commencer par ce jeudi.
$300 now.
Shut up.
Straż Graniczna dostała rozkaz przerzucania was przez druty. Polskie władze nie chcą was tutaj.
Musicie pokazać profesjonalizm.
Jasiek, co się dzieje?
Już że nie chciałabyś wiedzieć.
To nie są ludzie. To są żywe pociski.
Gdyby la Rosyjin, la Herzo i Fortuna, ale Polanka.
Dom jest do waszej dyspozycji. Stąd jest znacznie bliżej do granicy niż z waszej bazy w miasteczku. Nie rzucalibyście się w oczy.
Jeżeli chcesz iść na interwencję, to musisz zaakceptować zasady. Dajemy żywność, wodę, leki, ubrania, powerbanki, telefony.
Działeś jakieś zwierzęta w lesie.
Gazel, budowi u zarafy.
I nie wchodzimy do strefy stanu wyjątkowego. Nie możemy im dać pretekstu, bo oni uderzą w całą organizację.
Why are you doing this to us? It's illegal! We need your help!
Silne napięcie na granicy z Białorusią. Zaraz czyli.
Nigdy nikogo nie zostawię samego w lesie.
Un film d'une autre ambition, mais lui aussi d'une très belle ambition, notamment esthétique, c'est La Bête de Bertrand Bonello. Bonello, petit rappel là encore, cinéaste ô combien singulier dans le cinéma français, que l'on aime, même si on n'aime pas forcément tous ses films, ou du moins ses films sont toujours intéressants. Mais avec des préférences marquées pour certains. Moi j'avais beaucoup aimé notamment... C'était en 2003, il y a déjà 20 ans, un film qui s'appelait Tiresia, qui m'avait beaucoup marqué. Et puis, vous avez sans doute entendu parler de lui avec La Polonie dans 2011, qui était à Cannes. Saint-Laurent, évidemment, avec Gaspard Ulliel en 2014. Puis Nocturama, et puis deux films sur un mode mineur, intéressant, mais quand même assez maladroit ces dernières années. Zombie Child en 2019, qu'on avait programmé. Et Coma en 2022. Ces films étaient un peu des petits laboratoires, et c'est ce qui en faisait l'intérêt, qui marquait de plus encore les obsessions contemporaines, ou combien contemporaines, de Bonello pour les réseaux sociaux, pour toute une dimension qui est celle-là même de notre époque, et qui s'affirme encore dans La Bête, mais à travers pourtant trois périodes et une histoire d'amour non avouée qui s'échelonne comme ça sur trois époques, et c'en est assez fascinant. On est à la fois en 1910 et en 2044, et un homme, une femme qui se croisent de par ces différentes époques, et ce récit-là, étonnant, est l'adaptation d'un court roman de Henry James. Il n'y a pas tant d'adaptations au cinéma de Henry James. On se souvient, l'an passé déjà, il y avait une autre adaptation de La Bête dans la jungle par Patrick Chia. On n'avait pas programmé le film qui, moi, m'agaçait un petit peu. Et puis, il y avait une autre adaptation dans les années 80 des Ailes de la Colombe également. Mais ce film-là, La Bête, donc il a raccourci, Bonello a raccourci le titre, sans doute pour se distinguer aussi du film de Patrick Chia sorti l'an dernier, mais c'est très pertinent, ce film, La Bête. Bonello atteint là une forme vraiment ambitieuse, d'une ampleur remarquable. Je pense qu'il n'a pas bénéficié de moyens considérables, mais il parvient à donner cette ampleur romanesque très très forte, avec vraiment des tentatives, des défis esthétiques qu'il mène à bien. Il y a vraiment des grandes scènes très belles entre Léa Seydoux et George MacKay notamment, qui en sont les interprètes. Et il faut ici, moi qui ne suis pas un grand fan de Léa Seydoux habituellement, il faut dire que ce qu'elle accomplit dans La Bête est prodigieux. Elle est remarquable, le film était écrit pour elle. Et c'est un vieux projet qui remonte à quasiment 10 ans pour Bertrand Bonello. Et depuis 10 ans, c'est elle qu'il a à l'esprit quand il écrit ce film. Il y avait un acteur en face d'elle, prévu de longue date, c'était Gaspard Ulliel, mais le film donc a été reporté à plusieurs reprises, il devait se tourner en 2020, il y a eu la pandémie, il devait se tourner en 2022, mais hélas, vous le savez, Gaspard Ulliel est mort accidentellement en janvier 2022. Donc c'est George MacKay que moi je découvre. Alors on se souvient de lui, il tenait quand même le rôle principal il y a quelques années de 1917 de Sam Mendes, mais son personnage était quand même en retrait par rapport à l'action et au défi esthétique en lequel consistait ce film d'un plan unique. Et là il s'avère touchant, on le sent rigoureux, une personnalité assez affirmée face au lyrisme et à la beauté, à l'intelligence marquée de Léa Seydoux à travers ce récit que je trouve assez fascinant. Et les effets spéciaux sont surprenants aussi. Le film allie à la fois une forme de lyrisme, de classicisme aussi, en quelque sorte, et une audace esthétique, une modernité vraiment très troublante, et ça en fait un film mutant, avec des problématiques qui se rapportent justement à la mutation qui fait que ce film croise notamment les œuvres de David Cronenberg ou de David Lynch, dont assurément Bertrand Bonello est un grand fan. C'est un film sans doute qui partagera les spectateurs et spectatrices que vous êtes, qui vous partagera vous-même individuellement, et je peux le comprendre, mais allez le voir, c'est un film audacieux et singulier. C'est un film qui, par moments, vraiment nous emporte à travers des scènes vraiment fulgurantes. Ce film-là s'appelle La Bête, et il est programmé cette semaine pour 5 séances dès ce mercredi 21 février.
Votre projet personnel ?
Travailler.
Vous avez beaucoup trop d'affects.
Faut choisir entre le travail et les affects ?
Oui. L'intelligence artificielle peut vous aider à vous débarrasser de vos affects. En purifiant votre ADN, vous allez replonger dans vos vies antérieures pour nettoyer les traumatismes dont vous avez hérité depuis des siècles.
J'ai ce sentiment très profond que quelque chose de terrible va arriver.
Vous vous souvenez, n'est-ce pas ?
De quoi ?
Que nous nous sommes déjà rencontrés.
Ah oui ?
We talked about a strange, rare and terrible thing. You were convinced that it would eventually obliterate you.
I forgot ever sharing such a confidence.
You belong to me.
Un jour, j'ai quitté mon mari pour cet homme.
Est-ce qu'il y a un risque ?
Bien sûr. Il y a une bête prête à bondir.
Don't be afraid.
Quelqu'un va mourir. Peut-être vous, peut-être un proche.
What is stronger? Your fear or your love for me?
Because you think I love you. You're here.
You told me a hidden beast would appear.
Did you think I was crazy?
Jean-Michel Bertrand, vous le connaissez, il est le réalisateur voisin, puisqu'il est originaire de Saint-Bonnet-en-Champsaur, à 1h d'ici, 1h30 d'ici, au-dessus de Gap, aux abords du massif des Écrins, dans les Hautes-Alpes. On avait fait sa découverte en 2010 avec son premier film, c'était Vertige d'une rencontre, et puis après L'Aigle, qui était l'objet de son désir et de sa curiosité dans Vertige d'une rencontre, il s'est intéressé depuis 3 films au loup. Le loup qui, évidemment, revient en France depuis l'Italie depuis une trentaine d'années et que l'on retrouve maintenant aujourd'hui quasiment partout en France. Je crois que récemment, certains individus ont été observés ou constatés la présence en Bretagne. Donc, Jean-Michel Bertrand, avec la curiosité, l'humour aussi et la tendresse qui sont les siennes, s'intéresse au loup, il s'intéresse aux caractéristiques du loup, il cherche à l'observer aussi au quotidien, il est vraiment sur un mode quotidien de pistage du loup, alors particulièrement dans le Champsaur, mais un peu partout en France. Et ses films précédents, donc La Vallée des Loups en 2016 et surtout Marche avec les loups en 2019, avaient suscité une vive polémique. Alors il est aussi originaire évidemment des Hautes-Alpes, on sait la véhémence des opposants au loup dans la région. Ce qui est beau avec ce film, que je trouve le plus fort de la trilogie, Vivre avec les loups, c'est que le film, comment dire, il relève le défi, c'est-à-dire qu'il a eu affaire à... Certaines projections ont été annulées, voilà, il avait vraiment eu affaire aux détracteurs du loup, mais c'est compliqué, évidemment, la situation est complexe, et il n'élude pas cette complexité, c'est-à-dire qu'avec ce film, il prend acte, comme on dit, comme disent les politiciens de langue de bois, il prend acte de cette polémique, de ces oppositions, de ce dialogue que lui-même, à travers ses films, essaie de créer aussi, et ce film-là affirme davantage encore ce dialogue, c'est-à-dire qu'il va à la rencontre des bergers, des chasseurs, des riverains. Il va les rencontrer et comprendre comment on peut habiter avec le loup. Il prend aussi l'exemple de l'Italie, où manifestement la présence du loup est moins problématique et où des actions concrètes ont été menées depuis des décennies pour cohabiter avec le loup. Et l'on songe évidemment au très beau livre de Baptiste Morisot paru il y a quelques années qui s'appelait « Les diplomates ». Où il s'efforçait de lancer des pistes de réflexion pour réfléchir donc à une cohabitation avec les loups. Parce qu'on en est là, on ne va pas, comme il est dit dans le film, on ne va pas les exterminer. Il ne s'agit pas non plus de les sacraliser, ni de les éradiquer. Donc il s'agit de comprendre comment on fait avec les moyens et quels sont les moyens nécessaires pour tenter de vivre avec le loup en essayant au maximum de cadrer cette présence et les territoires qu'il investit, qui sont nombreux aujourd'hui. C'est un film d'abord très beau, sur un mode qui est celui-là même de Jean-Michel Bertrand, c'est-à-dire qu'il nous parle vraiment dans une forme de confidence, avec cette voix enrouée, une voix off, un commentaire qui a comme murmuré, et c'est assez agréable de se laisser bercer à la fois par ces images surprenantes, parce qu'il arrive à saisir avec Marie Amiguet, il faut bien rappeler toujours le rôle de Marie Amiguet, qui est cette directrice photo au parcours étonnant, qui a travaillé avec Vincent Munier, notamment sur La Panthère des Neiges, et qui est la chef opératrice, directrice photo des films de Jean-Michel Bertrand. Donc ils ont travaillé ensemble ici, particulièrement dans Champsaur, mais dans d'autres régions de France et en Italie, et ça donne des images vraiment très très belles, du loup, mais des chamois, voilà. Une multitude d'animaux que vous aurez plaisir à découvrir, avec les enfants notamment. D'où l'idée de montrer ce film pendant les vacances, et surtout d'inviter Jean-Michel Bertrand, ça fait des années que je cherche à le faire. Cette fois-ci, c'est possible, il a dit oui, il sera là ce samedi 24 février à 18h. L'idée, c'est de voir le film ensemble et d'avoir le temps, vraiment le temps derrière. On aura une bonne heure pour discuter avec Jean-Michel Bertrand de son film, de ses choix, évidemment, du loup et des pistes qu'il aborde, qu'il évoque et qu'il lance à travers son film. Et voilà, ça va être assurément une belle rencontre. Vivre avec les loups, donc, est programmé cette semaine pour 5 séances, et la séance du samedi 24 février à 18h sera en présence de Jean-Michel Bertrand, qui viendra en voisin, je crois, à moto, depuis Saint-Bonnet-en-Champsaur, pour cette projection.
Ça va être le dernier automne à ma cabane. Il s'en est passé des choses pendant 4 ans. Et pourtant, je sens bien que je suis pas au bout de mes surprises. Il y a aujourd'hui 6 meutes sur ce massif. Et là, c'est la dernière meute installée. C'est celle-là que je suis.
Belle, belle trace.
Ça fait 30 ans que les loups sont revenus. Et pourtant, très peu de monde se prépare à leur retour.
Il y a un loup. Il y en a deux. Hé !
Il faut tuer le loup, éradiquer le loup.
On ne se défait pas facilement de plusieurs siècles d'une culture de diabolisation de la nature.
Dans la vallée, c'est le sujet tabou, hein. Tu vas te fâcher à cause du loup. Hein.
Pour moi, le retour du loup, c'était un truc magique. Mais c'est pas magique pour tout le monde.
Quand tu gardes un troupeau, tu deviens part de ce troupeau, presque.
Les chiens, ils limitent la casse, c'est sûr. Mais c'est loin d'être si facile, quoi.
Toi, tu étais au bout.
Ah oui, j'étais au bout du monde. Moi, j'étais prêt à vouloir descendre de montagne.
J'ai l'impression que le chasseur dit « Ouais, le loup, il mange nos chamois, il nous mange nos chevreux. »
Mais après tout, c'est pas plus à nous qu'à lui.
Alors qu'est-ce qu'on fait? Tout tuer, on n'y arrivera plus. Il va falloir qu'on vive ensemble.
Dans les Abruzzes, en Italie, les loups n'ont jamais disparu et les humains ont toujours composé avec. On peut voir des louveteaux qui jouent au milieu des cerfs. Les loups sont d'excellents guides. Ils sont un indicateur de notre capacité à nous humains d'accepter la nature.
Et Les lueurs d'Aden, le titre original c'est The Burden, je crois que ça veut dire quelque chose comme le fardeau, désigne du moins une personne qui a à subir un fardeau, et c'est le cas en quelque sorte de cette famille dont il est question. Alors dans le film, les protagonistes, c'est une famille qui vit pauvrement au Yémen, à Aden, et il faut dire ici le plaisir qu'on a à montrer un film yéménite. Vous savez qu'en 30-40 ans, le Yémen a produit mais une poignée de films. C'est, voilà, je ne sais pas combien de films yéménites sont sortis en France, mais c'est vraiment un des tout premiers. On espère qu'il y en aura d'autres, parce que bah, des films produits dans un pays en guerre en plus depuis 9 ans et demi aujourd'hui, qui subit une guerre civile terrible hein, entre les pro-gouvernements et les dits rebelles houthites, des films qui se créent, c'est quand même toujours une bonne nouvelle. Donc ce film yéménite, Les Lueurs d'Aden, dont l'action se situe à Aden, qui est la ville du réalisateur, et ce réalisateur, je veux dire son nom, il a tout juste 40 ans, il s'appelle Amer Gamal, il est originaire d'Aden, et un des objectifs de ce film était pour lui de montrer sa ville qu'il aime. Et c'est vrai que, pour ma part, je n'avais jamais vu de vue d'Aden. Ce nom d'Aden, pour moi, évoque Rimbaud. On sait que, dans la deuxième partie de sa vie, Rimbaud, dans ses voyages africains et en Orient, a séjourné à Aden, puis en Éthiopie et au Harar. Et il y a un plaisir très simple de la part de ce réalisateur qu'il nous transmet de voir cette ville et de suivre, même dans le parcours du combattant qui est celui de cette famille, de suivre cette famille et ses protagonistes déambuler, errer dans cette ville en voiture, à pied, et d'en voir simplement la dimension architecturale, urbanistique, vous voyez. Cette famille, donc, est confrontée à un choix, c'est qu'ils ont déjà 3 enfants, qu'ils vivent très difficilement. Le mari, qui est notamment chauffeur de taxi, ses salaires ne lui sont pas versés. Ils ont à subir en permanence les effets de la guerre civile avec des pannes de courant récurrentes. Et ils ont à faire face à la naissance d'un 4e enfant, une grossesse en tout cas. Et l'avortement, l'interruption volontaire de grossesse, est un tabou au Yémen. Et donc ils vont se confronter à des refus successifs de médecins, voire même au scandale que peut susciter l'évocation d'une IVG au Yémen, alors que l'enfant, pour toutes et tous autour, les voisins, les amis, est considéré comme une bénédiction. Donc c'est ce parcours-là, cette question du libre choix, qui est abordée de manière subtile, délicate, et vraiment très belle et poignante, là aussi, dans ce film Les Lueurs d'Aden, film donc tourné au Yémen, film yéménite, par Amer Gamal. Il est montré au Bourguet cette semaine pour 5 séances. صدقنا لنا حتى 3 شهور ما نستلمش عاد نحن في ابن حنا الخير اصحاب الداخليه 6 شهور وقابوا لهم حق شهر
كويس كيس الحل موجود مكانه بدنا نبكر عشان نعرف نوع الجنين ويعني كل اللي قبل ربنا اكيد حلو
بالله عليك الف مبروك
لا فراوي اكثر تقول لي الف مبروك
يا رجال لا تمشي الغرز
معنا ما زلنا محدد رجع لك معه
أنا محتاجة لك تساعديني
لو سمحت
طبعا عسكري هذا مو بس
طبعا مع مين؟
مدريش عبدالله ليش بنت مع مين بالبلاد؟ أنت
شو تسجل عند الدكتورة منى؟
لا نحن معنا موعد شخصي من الثالث يا منى ما مين اللي أنتي؟
مصطفى من توتش تو نقطة النفس؟ أنتوا عارفين رأيي بدل الموضوع من زمان مستحيل إني أغيره بلها بلحقك حرام
كلامي ولا كلامه هذا الموضوع له خلاف
انت اخر مره رحت للدكتوره
ايش تحقيق ولا كيف
اني تعبت
يا من تعبت خلاص من لما نجيتي لي امس انت احمد العياده اللي ما عرفت انام
فين طريقك تلفزيون وقفنا في الحدايه اليوم
هاي قد وقفنا لما دخلنا بعض الحرب ما شفنا
هذا اللي تبدلنا الفتره الاخيره هزتنا كثير يا اسراء
عمر صلي على النبي ماذا
Le dernier film de la semaine dont on va vous parler, c'est Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci. C'est un film d'animation tourné en stop motion, comme on dit, qui s'intéresse donc à ce personnage ô combien fascinant que fut Leonardo da Vinci, Léonard de Vinci en français. C'est un film à la fois français, irlandais et américain. Il est réalisé par un binôme américano-français, Jim Capobianco, qui est le vrai réalisateur en fait de ce film, qui est un réalisateur qui est passé par Disney, puis Pixar, et qui tourne aujourd'hui en France avec l'aide, le soutien technique de Pierre-Luc Grandjean. Pierre-Luc Grandjean, c'est un excellent réalisateur de films d'animation. Il a réalisé plutôt des courts-métrages jusqu'à présent. Et il s'est vu là embauché par Jim Capobianco pour ce film assez ambitieux, mais aussi très artisanal. Le film d'ailleurs entremêle des dessins faits de manière très artisanale et des techniques modernes, notamment de stop motion et d'animation. Et ce mélange entre l'artisanat et la technologie plaisait beaucoup à Jim Capobianco pour évoquer ce personnage, cet inventeur génial, cet ingénieur, ce peintre, cet homme incroyable que fut Leonardo da Vinci. Et ça fonctionne très bien. Le film est drôle. On sent une forme de générosité pédagogique, une curiosité, une vivacité d'esprit pour évoquer ce personnage et tout le contexte historique dans lequel il s'inscrit, à la Renaissance, auprès de François Ier, Marguerite de Navarre, vous voyez tous ces personnages historiques autour de Léonard de Vinci dans la dernière partie de sa vie, quand il quitte l'Italie et qu'il est accueilli par François Ier à Amboise, il va séjourner au Clos Lucé. Et pour les voix françaises, André Dussolier interprète Léonard de Vinci, Marion Cotillard, Louise de Savoie, Juliette Armanet, la chanteuse et de plus en plus souvent actrice, interprète Marguerite de Navarre, et elle chante d'ailleurs des chansons. Et voilà, ce film est un plaisir autour de ce personnage, mais pour l'animation elle-même et pour son scénario. C'est un projet que Jim Capobianco a porté depuis des années et qu'il a tourné intégralement en France, et ça c'est un plaisir aussi d'en parler, puisque le studio situé en Ardèche, Foliascope, qui dispose de 12 plateaux de tournage, a permis de tourner intégralement ce film en France et en Ardèche. Ce film-là, il est recommandé à partir de 7 ans environ, 7-8 ans, et il est montré ce mercredi, encore un peu avant les vacances, à 16h, et ensuite à partir de samedi jusqu'au mardi, il y a une séance par jour, alors que les vacances auront débuté.
Il y a fort longtemps, au temps de la Renaissance, un inventeur des plus audacieux imagina d'innombrables projets extraordinaires. Les sciences, les arts, l'architecture. Si vous ne l'aviez pas deviné, ce visionnaire, c'est moi. Léonard de Vinci. Nous allons construire ici la cité idéale. Il y aura des jardins en quantité pour préserver la pureté de l'air.
N'oubliez pas d'ériger ma statue.
Vous êtes un tel génie. Vous l'avez dit, la ville est comme un être humain, elle est porteuse de vie. Votre prestige et votre sagesse permettront à notre roi de devenir le plus grand roi de l'histoire de France.
Pourquoi sommes-nous sur Terre? Dans quel but? Quel est le véritable sens de la vie?
Votre comportement est des plus étranges.
Il est complètement fou!
Peu importe l'étendue de votre curiosité, il y aura toujours des gens pour vous empêcher d'aller au bout de vos idées.
De telles idées risquent de vous causer beaucoup d'ennuis.
Leonardo, ce que
pourquoi
ça...
Pourquoi ne te contentes-tu pas de peindre de belles choses?
Léo.
Voilà, pour cette semaine du 21 au 27 février, Green Border, La Bête, Vivre avec les loups, Les lueurs d'Aden et Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci, ce sont les films de la semaine. On vous dit à très bientôt.